Le chef adjoint du pouvoir judiciaire iranien et chef du siège des droits de l'homme du pays Qasem Gharibabadi a critiqué le Canada pour avoir arrêté et réprimé les manifestations organisées par les camionneurs du pays. Dans un tweet dimanche, Gharibabadi a qualifié les manifestants de pacifiques, affirmant que leurs manifestations avaient été étouffées dans le soi-disant pays de la liberté. Il a également dénoncé le silence sur la question et a déclaré « Personne n'ose jamais parler des violations flagrantes des droits de l'homme qui se produisent quotidiennement au Canada ». Samedi, des policiers ont dégagé la zone centrale d'une manifestation tentaculaire à Ottawa, se déplaçant de camion en camion et arrêtant des manifestations alors qu'ils continuent à maîtriser l'occupation qui perturbe la capitale canadienne depuis des semaines. À partir de 10h environ, la police a avancé sur des camions qui étaient garés sur la rue Wellington, l'artère devant l'édifice du Parlement, tirant des armes sur certains véhicules et frappant aux portes alors qu'ils cherchaient des personnes à l'intérieur. Ils en ont arrêté plusieurs alors que d'autres manifestants criaient « Honte à vous » de proximité. Au cœur du campement principal samedi, la police a repoussé les gens avec des matraques et des sprays irritants et a procédé à de nouvelles arrestations. Selon l'agence de presse Aviapro, le président de la Russie a décidé de reconnaître la RPD et la RPL en tant qu'État indépendant. Le président russe Vladimir Poutine a prononcé un discours où il a officiellement reconnu les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk en tant qu'État indépendant. La décision était basée sur les recommandations du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et sur la base de la situation critique dans le Donbass et en conséquence le nouveau statut des républiques du Donbass permet à la Russie de fournir divers types d'assistance à la RPD et à la RPL, y compris militaire, si Kiev décide d'aggraver le conflit dans la région. À l'heure actuelle, on sait que les troupes russes se trouvent à la frontière des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, déjà reconnues par le dirigeant russe, et sont prêts à protéger la région de l'invasion ukrainienne. Il est à noter que quelques heures avant le discours du président de la Russie, le Kremlin a annoncé que le président russe avait décidé de signer un décret reconnaissant les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, ce qui a été annoncé lors d'une conversation téléphonique entre le président français et le chancelier allemand. Les experts estiment que dans un avenir proche, la situation dans le Donbass se rapproche de la catastrophe puisque Kiev a annoncé que la reconnaissance officielle de la RPD et de la LPR entraînera une rupture des accords de Minsk et permettra à l'Ukraine de prendre toutes les mesures pour revenir à sa structure des républiques autoproclamées. Les chars ukrainiens ont fait irruption sur le territoire de la RPD. Toujours selon Aviapro, des chars ukrainiens sont entrés dans le territoire de la RPD et ont pris d'assaut Yasni Votaya. Après des frappes d'artillerie à grande échelle par les forces armées ukrainiennes, les troupes ukrainiennes ont réussi à percer les lignes de défense près de la colonie de Yasinovatia. À l'heure actuelle, on sait qu'une bataille de chars a été déployée dans la région. Les forces de la RPD ont réussi à empêcher l'armée ukrainienne de poursuivre sa percée. Mais pour le moment, la situation reste critique et cela alors que les forces armées ukrainiennes continuent à frapper avec l'artillerie. À peine 3 heures avant le début de la percée des chars ukrainiens dans la zone de la colonie de Yasinovataya, plus de 80 obus d'artillerie ont été tirés le long de la ligne de défense de la RPD à cette zone, ce qui a permis aux forces armées ukrainiennes de percer. À l'heure actuelle, on sait que des troupes russes pourraient être envoyées dans la région dans les prochaines heures pour aider les milices de la RPD et de la LPR, bien que les experts craignent un conflit armé très grave, car à l'heure actuelle, les forces armées ukrainiennes ont un vrai avantage dans la région. Plus de 300 avions de combat et hélicoptères russes sont concentrés près des frontières ukrainiennes. À cet égard, il est possible que ces forces soient utilisées pour couvrir rapidement le territoire de la RPD et de la RPL des attaques des forces armées ukrainiennes. Un sondage de l'IFOP publié par le Journal du Dimanche montre que seuls 22% des Français jugent positif le bilan du président sur le pouvoir d'achat. Les sondés sont sévères sur la date, la maîtrise de l'immigration, l'insécurité, la justice et l'environnement. Des éléments positifs, mais surtout de réels motifs d'inquiétude pour le président sortant dont la candidature n'est pas encore officielle. Un sondage de l'IFOP publié par le GDD le 20 février révèle qu'en dehors des relations avec l'Union européenne, sur lesquelles le bilan du président est jugé positif par 61% des sondés, aucun sujet ne recueille une majorité d'opinions favorables. La gestion de la crise sanitaire divise quant à elle l'échantillon en deux parts égales. Concernant certains thèmes essentiels de la campagne, le total d'avis négatifs est très élevé. Seuls 22% des Français le créditent ainsi d'une réussite sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat a boulé du bilan d'Emmanuel Macron. Dans les raisons de mécontentement à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est le sujet le plus fortement cité. Analyse Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, cité par le Journal du Dimanche, y voyant un véritable boulet dans le bilan présidentiel. Ainsi, 69% des Français jugent que leur pouvoir d'achat a diminué, tandis que 75% estiment que celui de l'ensemble des Français a baissé. Un boulet d'autant plus lourd à traîner qu'il s'agit d'un des sujets cités comme les plus déterminants selon les sondés pour leur vote d'avril. Il est mentionné dans 70% des cas, juste derrière la santé, 74%, et à égalité avec la lutte contre l'insécurité et la délinquance. L'opinion des sondés sur le bilan régalien d'Emmanuel Macron est sévère. Sur la maîtrise de l'immigration, son action n'est jugée positive que par 24%. Des personnes interrogées sur la justice, il n'atteint que 28% d'opinions favorables. Sur la lutte contre l'insécurité et la délinquance, le président recueille à peine un tiers d'avis positifs, 31%. Ces chiffres semblent confirmer un précédent sondage publié par le Figaro début février selon lequel 3/4 des Français étaient insatisfaits de l'action d'Emmanuel Macron contre la délinquance. En revanche, le bilan de la lutte contre le terrorisme du président atteint presque la moitié d'opinions positives, 48%, légèrement au-dessus de l'évaluation de l'image de la France à l'étranger, 45%. En matière économique, les mauvais scores sur le pouvoir d'achat s'accompagnent d'une perception plus équilibrée du bilan sur la croissance et l'attractivité de la France et la lutte contre le chômage qui recueille 55% d'opinions défavorables. Cependant, 2/3 des sondés jugent négativement le bilan sur la fiscalité et seuls 21% soutiennent l'action du sortant en matière de dette publique dont le niveau a récemment alarmé la Cour des comptes. Les jugements des sondés sur les différents enjeux ne sont pas d'ailleurs pas forcément corrélés avec l'importance qu'ils y accordent pour déterminer leur vote. La réduction de la dette publique ne sera déterminante que pour 35% d'entre eux et la lutte contre le chômage pour 54%. Comme le révèle le Journal du Dimanche, les résultats en matière de diminution de chômage sont pourtant l'un des points que l'équipe du président souhaite mettre en exergue. Avec un taux de chômage ramené à 7,4% de la population active en France. Selon l'INSEE, enfin, l'action d'Emmanuel Macron en faveur de l'environnement et contre le réchauffement climatique ne recueille que 29% d'avis positifs, l'enjeu étant jugé déterminant par la moitié des sondés. L'ambassade des États-Unis à Moscou a signalé aux Américains des risques d'attaque en Russie ce 20 février. Selon RT France, dans un message destiné aux Américains vivant en Russie, l'ambassade des États-Unis à Moscou leur signale des risques d'attaque dans le pays. Les autorités russes n'en auraient pas été informées, d'après la porte-parole de la diplomatie russe. Un message de l'ambassade des États-Unis à Moscou signale aux Américains présents dans le pays de risque d'attaque en Russie dans les lieux de rassemblement public comme les centres commerciaux, les métros ou les gares au sein des grandes villes du pays dont Moscou et Saint-Pétersbourg ainsi que la zone de tension avec l'Ukraine. Le message cite des sources médiatiques sans préciser pour autant lesquelles précisément, regrette RT. Dans un message publié sur le réseau social Telegram, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a regretté que le gouvernement américain n'ait pas communiqué cette information aux autorités russes compétentes. Avez-vous transmis des données pertinentes à vos collègues russes via des canaux partenaires? Sinon, comment faut-il comprendre cela? A-t-elle interrogé. Les États-Unis recommandent depuis plusieurs semaines déjà à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Russie en plein pic de tensions entre les deux pays. Washington accuse en effet Moscou de vouloir envahir l'Ukraine de manière imminente, ce que la diplomatie russe qualifie de fake news. Poussée très probablement par le sionisme américain, l'Allemagne a mis en garde lundi contre la reconnaissance par la Russie des régions séparatistes de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Un entretien téléphonique entre le chancelier Olaf Scholz et le président russe Vladimir Poutine a de nouveau porté sur la situation en Ukraine et dans les environs et sur le déploiement de troupes russes aux frontières russes-ukrainiennes. Et biélorusse-ukrainienne, a déclaré le porte-parole Stephen Hebestreit dans un communiqué de presse. Le chancelier Scholz a condamné les plans de la Russie visant à reconnaître les dites républiques populaires de Donetsk et de Luhansk comme des États indépendants. Une telle mesure serait en contradiction flagrante avec les accords de Minsk sur le règlement pacifique du conflit dans l'est de l'Ukraine et constituerait une violation unilatérale de ces accords par la Russie, a-t-il ajouté. Mais le chancelier Scholz n'a pas parlé de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Au cours de cet entretien, Scholz a appelé Poutine à une désescalade immédiate et au retrait des forces russes de la frontière avec l'Ukraine, selon le communiqué. Il a souligné qu'il est désormais important, notamment dans l'Est de l'Ukraine, de respecter le cessez-le-feu et de donner des signes de détente. Le chancelier allemand consulte actuellement ses partenaires les plus proches, dont le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a précisé Hebestreit. Scholz a averti la Russie ce week-end qu'une attaque militaire contre l'Ukraine voisine aurait de graves conséquences pour le Kremlin. Une agression militaire contre l'Ukraine serait une grave erreur. Rien ne justifie le déploiement de bien plus de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, a déclaré Scholz à la conférence de Munich sur la sécurité. La guerre menace à nouveau l'Europe et le risque est tout sauf conjuré, a-t-il ajouté. Scholz a clairement indiqué que la Russie paierait un prix élevé sur le plan politique, économique et géostratégique si elle attaquait l'Ukraine. Scholz a néanmoins souligné qu'il était encore possible de trouver une solution diplomatique à la crise russe-ukrainienne. Les pays occidentaux accusent la Russie de déployer près de 150 000 soldats le long de la frontière ukrainienne en vue d'une invasion imminente. Moscou n'a eu de cesse de démentir tout projet d'invasion de l'Ukraine et a plutôt accusé les pays occidentaux de compromettre la sécurité de la Russie par l'élargissement de l'OTAN vers ses frontières.